Vous écoutez le programme du studio Kalangu depuis Niamey, il est 18h, le journal en français au micro Gunguma Mandantani. Voici le sommaire de cette édition. Le poste de police du village de Betalkoli dans le département de Bankilaré a fait l'objet d'une attaque hier soir de la part d'éléments armés non identifiés. Nous y reviendrons plus en détail dans ce journal. Le séminaire du collège sahélien pour la sécurité qui a débuté le 22 mai dernier à Bamako a pris fin vendredi 26 mai 2017. Les conclusions de cette rencontre dans ce journal. Cannes U17 qui se déroule au Gabon, c'est aujourd'hui que se joue la troisième place et la finale. Nous y reviendrons également. La partie magazine de ce soir est essentiellement consacrée à la rétrospective des faits saillants et a marqué la semaine écoulée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous avoir très nombreux à l'écoute de cette édition dominicale du studio Kalangu. Je le disais dans les titres de cette édition, le poste de police du village de Betalkoli, situé à une quinzaine de kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso, dans le département de Bankilaré, région de Tillabéri, a fait l'objet d'une attaque hier aux environs de 21h. Attaque réalisée par des hommes armés non identifiés. Information confirmée de sources locales officielles. Selon une autre source locale, le bilan provisoire fait état de 3 morts côté policiers et de plusieurs blessés. Le ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, a présidé hier une réunion d'échange avec les responsables des comités de vigilance du département de Torodi. Le forum a porté sur la sécurité, la prévention des conflits, la coexistence pacifique et le développement. Bazoum Mohamed, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, explique au micro d'Abdoulaye Mamoudou. De l'historique que vient de faire le maire, la perte en vie humaine dans les rangs des forces de défense et de sécurité au Niger, cela a commencé depuis 1976. Cela fait 40 ans alors. S'il y a la présence des bandits, c'est parce que Torodi est une frontière avec le Burkina. En plus, c'est une zone touffue de beaucoup d'arbres et il n'y a pas de route. Les malfaiteurs utilisent des bicyclettes et aujourd'hui, ils utilisent des motos. Ce sont ces problèmes-là qui ont durement touché la zone jusqu'ici. Quand nous sommes arrivés, nous avons échangé avec la population. Elles nous ont fait des recommandations. Nous les avons pris en compte. Nous avons dit que dans chaque village, qu'il soit mis en place un comité de vigilance composé de jeunes qui va assurer la sécurité des actes pour savoir qui est sorti, qui est rentré. Toute moto qui va quitter la nuit doit nécessairement se présenter au comité pour savoir son itinéraire. De cette forme de conscientisation, nous qui recevons les comptes rendus, nous avons constaté que les choses se sont améliorées.
C'était là le ministre Bazoum Mohamed. Toujours dans le volet sécurité, début le 22 mai dernier à Bamako, le séminaire du Collège sahélien pour la sécurité portant sur le thème « Dialogue et rapport entre citoyens, forces de sécurité et autorités judiciaires sur les enjeux sécuritaires au Sahel » a pris fin le vendredi 26 mai. Plusieurs participants venus des 5 pays membres du G5 Sahel ont, durant une semaine, échangé sur plusieurs thématiques telles que la sécurité. Kaka Touda Goni, du coordonnateur du réseau des jeunes du G5 Sahel, section Niger, y était. Nous dresse les conclusions de cette rencontre au micro de Nafissa Adamou.
Les forces de défense et de sécurité, les autorités judiciaires, les citoyens, notamment les journalistes et les acteurs de la société civile. Nous avons discuté de plusieurs thématiques, la problématique de l'implication des mineurs dans les groupes djihadistes, la question de l'implication des femmes aussi, qui sont souvent des femmes kamikazes, souvent aussi des femmes qui posent des mines aux côtés des djihadistes. Les grandes conclusions, c'est surtout le partage d'informations. C'est comment faire en sorte que ce qui a été fait à Bamako puisse être répliqué et dupliqué au niveau des autres pays du G5 Sahel. Aussi, c'est comment faire en sorte que nos forces de défense et de sécurité puissent être des forces républicaines. Il a été constaté lors des échanges qu'on a atteint un niveau où dans nos États, les forces de défense et de sécurité sont considérées comme des forces de raquettes plutôt comme des forces qui sont censées sécuriser la population. C'est aussi de créer les conditions pour que nos États aient vraiment les forces régaliennes, comme on le dit, pour sécuriser les territoires.
Dans la région des fleuves, la semaine dernière, les autorités du département de Saï, région de Tillabéri, ont rencontré les orpailleurs du site de Tamou pour leur signifier l'ordre d'évacuation des lieux dans un délai de 4 jours. Le délai accordé prend normalement fin aujourd'hui à partir de 18h. Où en est-on de l'exécution de cette mesure? Le studio Kalangou a joint ce matin par téléphone le secrétaire général adjoint du syndicat national des artisans miniers, Sinami.
Notre dernière rencontre nous ont donné un délai de 4 jours. Donc ça va expirer aujourd'hui dimanche à 18h. Mais nous on a pu aussi rencontrer les autorités régionales. Maintenant je crois qu'il y aura un changement. Donc on attend l'arrivée du directeur régional des mines. On a demandé une prolongation de 2 mois. C'est-à-dire que nous voulions que les sites-là restent aussi opérationnels jusqu'à la fermeture officielle de tous les sites d'orpaillage qui aura lieu vers la fin du mois de juin. Chaque année, c'est comme ça pour l'hivernage. Non, avec le préfet, c'est le départ aujourd'hui, dimanche à 18h. Il faut que les orpailleurs déguerpissent. Oui, les orpailleurs sont là. Il y a une partie qui est là, une partie est déjà partie.
Vous venez de suivre le secrétaire général adjoint du Sinami. Dans un tout autre aspect, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, a fait le point sur la situation de l'hépatite E dans la région de Diffa, mardi 23 mai dernier. Dans ce rapport, on note une augmentation du nombre de cas, mais une baisse du nombre de décès et des actions de sensibilisation des communautés se poursuivent. Détail avec Adama Dawaki.
À la date du 23 mai dernier, 30 décès liés à l'hépatite E ont été enregistrés dans la région de Diffa. À la même date, 664 cas déclarés suspectés et confirmés ont été notifiés. Selon toujours OCHA, les cas déclarés relèvent que les femmes constituent la couche de la population la plus affectée. La même source déclare que le personnel des structures sanitaires et les partenaires humanitaires mènent conjointement des activités de prise en charge médicale et de prévention, y compris à travers des messages de sensibilisation et l'amélioration des conditions d'accès d'eau, l'hygiène et l'assainissement. Aussi, un plan de réponse a été élaboré avec un budget provisoire d'environ 9 millions de dollars. OCHA précise également que l'augmentation du nombre de cas observés au mois d'avril s'explique par le fait que les équipes médicales se sont déplacées sur le terrain pour effectuer des recherches actives des cas.
Merci Adama Dawaki. Cap à présent au nord du pays, début de solution au problème d'eau que connaissent certains quartiers de la ville d'Agadez ces derniers jours. En effet, le conseil municipal de la ville d'Agadez a initié une opération de distribution gratuite d'eau pour venir en aide aux quartiers les plus reculés qui ont plus besoin. Cette opération qui a débuté hier intervient au moment où la ville d'Agadez subit un délestage de la part de la société d'exploitation des eaux du Niger, SIN. Pour plus de précisions, écoutons Adamou Abi, agent de la municipalité d'Agadez, au micro de notre correspondant Moussa Maman.
Au niveau de la commune, il y a un certain nombre de quartiers qui ont un problème crucial à nous. Et surtout les quartiers qui concernent Tadlam Faye, Juan Kadra, Flamme de la Paix, qui va vers Dubaï, qui va vers Misrata et Tadres. C'est des quartiers où l'eau, des fois, les pompes n'amènent l'eau que vers minuit, 1h du matin. Et ce dernier temps même minuit, 1h du matin, l'eau ne vient plus. Et vu que nous sommes au début du mois béni de Ramadan, le maire a jugé utile de venir en aide à la population de la commune urbaine d'Agadez et surtout à ces quartiers qui ont un problème crucial en leur offrant gratuitement, je dis, l'eau par des citernes. Vous avez vu, constater vous-même, on a 2 citernes. Un citerne qui est en train de desservir tous ceux qui vers Jeune Cadre Tadlaf et Dubaï, et l'autre citerne est en train de desservir Misrata et Tadres. Et cette opération, nous allons la continuer.
Restons toujours au nord du pays, à Arlit, dans la région d'Agadez. La population est confrontée depuis quelques jours à une pénurie de mil, une denrée fortement demandée pendant la période de Ramadan. Pour quelles raisons? Notre correspondant de la radio Kaoussen, Ousmane Oumarou, a posé la question à un grossiste de la localité qui répond.
Le manque de mil, c'est depuis la zone de production. Quand nous appelons nos fournisseurs pour nous ravitailler, ils nous disent que depuis là-bas, le sac coûte 18 000 francs CFA. En additionnant le prix de transport du sac jusqu'ici, il va nous revenir à 30 000 francs CFA. Voilà ce qui a provoqué la pénurie de mil à Arlit. Avant-hier, nous avons ici quelques sacs. Tout est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de mil. Tu peux sillonner tout ce marché. Tu ne trouveras pas du mil. Depuis hier, la demande demande est croissante, c'est la pénurie qui fait que le sac a atteint 30 000 francs CFA. Mais toutefois que la vente à prix modéré commence, peut-être que cela va casser le prix sur le marché. Si cette vente n'a pas vite commencé, je t'assure que le prix du sac de 1000, personne ne saura à quel coût il va plus aller en hausse. Ça, c'est moi qui te le dis.
En bref, du sport, la CAN des moins de 17 ans. Le MENA du Niger a perdu le match pour la troisième place qu'il opposait au Sili cadet du Guinée-Conakry sur le score d'un but à 3 en faveur donc du Sili de Guinée. C'était cet après-midi au Gabon. La Coupe d'Afrique des Nations de football moins de 17 ans prendra fin ce soir même avec la finale qui opposera le Ghana au Mali à 20h30 au stade de l'Amitié de Libreville. Nous allons directement au magazine, 18h, donc passé de 10 minutes. Place à présent à la partie magazine de ce soir, essentiellement consacrée à la rétrospective des faits saillants ayant marqué la semaine écoulée. Le résumé avec Adama Dawaki.
La semaine qui s'achève a été marquée tout d'abord par la prouesse du MENA national de moins de 17 ans qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans qui se tient au Gabon. Le match s'est joué mercredi 24 mai dernier contre l'équipe du Ghana Black Starlets. Le score s'est soldé par 6 buts à 5 en faveur du Ghana suite à l'épreuve des tirs au but. Soumaïla Tchomogo, entraîneur du MENA, a livré ses impressions après match.
Le comportement de nos joueurs est quand même satisfaisant dans le temps réglementaire. Maintenant, nous essayons de remonter le moral pour affronter le match de classement. Nous allons essayer de motiver au maximum les enfants pour qu'au moins que nous venons avec une médaille.
L'équipe cadette du Niger est d'ores et déjà qualifiée pour la phase finale de la Coupe du monde de football de moins de 17 ans qui est prévue au mois d'octobre prochain en Inde. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, était jeudi 25 mai dernier en Sicile, en Italie, où il a participé au 43e sommet du G7, le groupe des pays les plus développés du monde. Il s'est entretenu avec le nouveau président français, Emmanuel Macron. Les relations internationales, la sécurité, l'économie mondiale, le climat ont été, entre autres, les sujets évoqués lors de ces sommets. Autre sujet de la semaine, le procès du président du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, Amadou Djibo. Il a comparu pour la troisième fois devant le juge du tribunal de grande instance de Niamey. Cependant, le jugement au fond est prévu pour le lundi 29 mai prochain. Maître Moukaila Yaye, un des membres du collectif des avocats de la défense, explique.
Le juge, dans sa décision, a estimé que les exceptions que nous avions soulevées ne sont pas fondées et il a décidé de nous renvoyer au jugement au fond sur les reproches qui sont faits à M. Djibo Ali, dit Max. Dans le fond, ce qu'on lui reproche, c'était d'avoir provoqué un complot ou suggérer des actes de nature à changer le régime. Nous contestons formellement cette incrimination.
Abdrahmane Insar, acteur de la société civile, a comparu également jeudi dernier devant le tribunal de grande instance d'Agadez. Mais son jugement a été reporté au 1er juin et la demande de liberté provisoire introduite par son avocat a été rejetée. Pour rappel, il avait été arrêté le 16 mai dernier pour incitation à la violence. L'usage des faux est désormais la charge retenue contre Baba Alpha, journaliste à la radio et télévision Bonferré et son père. Avant, il était poursuivi pour faux et usage des faux en écriture publique. Cette réqualification des charges selon la défense devrait permettre d'abandonner les poursuites contre Omar Sid Mohamed qui aurait aidé Baba Alpha dans sa fraude. Baba Alpha et son père ont été convoqués vendredi dernier par le juge du 8e cabinet pour leur signifier l'ordonnance de renvoi aux fins de jugement au plus tard dans 18 jours. Notons enfin cet accident mortel de la route survenu sur la voie de Dogondouti après Bolbol à une quarantaine de kilomètres de Dosso. Un bus de la compagnie de transport Sonef a percuté des IAS 19 places, bilan une dizaine de morts et plusieurs blessés. Les personnes blessées ont été transportées au centre hospitalier de Dosso.
Merci Adama Dawaki et c'est avec cet élément que prend fin cette édition dominicale du studio Kalangou. Au revoir. Thank you.